France Musique. France Musique, les grands entretiens, Saskia Deville.
Je m'appelle Jérôme Pernaud, je suis violoncelliste, je suis né en 1972 à Nantes.
Recherchez-vous comme environnement, Jérôme Pernaud? Qu'est-ce qui vous apaise ou vous nourrit?
Alors, sans hésiter, la nature. La seule vraie ressource, c'est la nature. La marche à pied, par exemple, est extraordinaire pour ça, parce que petit à petit, on fait corps avec la nature. Quand je dis petit à petit, c'est-à-dire quand on marche pendant 10 jours dans la montagne, qu'on a une tente sur le dos et que... on voit pas un brin de civilisation pendant tout ce temps-là et qu'on marche 9-10 heures par jour. Alors ça, tout d'un coup, on fait corps avec la nature. Et puis, c'est une vraie ressource. C'est une vraie ressource, à condition de regarder vraiment. Mais quand on est complètement dedans, on est obligé de regarder. C'est un petit peu comme les œuvres d'art. C'est-à-dire que les œuvres d'art sont bonnes pour l'humanité. Elles nous nourrissent, etc. Mais quand même, à condition qu'on écoute ou qu'on regarde, vraiment, pour de vrai, intensément. Et ça c'est un effort. Autant l'accès doit être facile, autant l'approfondissement, lui, nécessite une volonté de la part de celui qui reçoit. C'est la même chose face à la beauté, la grandeur de la nature. Il faut vraiment regarder. Ça suffit pas de passer sous le ciel étoilé, de se dire « tiens, c'est joli ». Il faut rester un peu, il faut admirer, il faut scruter, il faut... Ça m'est arrivé récemment cet été avec quelques élèves. Décidément, je les emmène à Prades, dans ce merveilleux festival de Prades qui était dirigé par Michel Letièque jusqu'à cette année, justement. Et de les emmener dans la montagne à Prades, donc dans les Pyrénées. Et puis on est resté là, vous savez, cette abbaye de Coucha qui est sublime et qui est complètement dans la montagne. Et puis après le concert, on est resté un peu. Et puis finalement, on s'est assis sur des rochers. Et puis on a regardé le ciel. Ça a duré, je sais pas, 2-3 heures. Là, on a accès à quelque chose de très profond.
Prendre le temps de contempler dans un monde qui va de plus en plus vite. Vous êtes un hyperactif, hein, Jérôme Pernaud, que ce soit en tant que violoncelliste, on l'a dit, pédagogue, fondateur, programmateur de festivals, entrepreneur, fondateur du Centre de musique de chambre de Paris, justement. Pourquoi ce besoin de remplir, en quelque sorte, autant une vie?
Alors là, j'aimerais bien savoir pourquoi, mais que diable...
On frôle la boulimie, tout de même.
Que diable allait-il faire dans cette galère? Souvent, je me le demande. Parce qu'évidemment, on se met des contraintes incroyables avec tout ce qu'on a à faire. Alors oui, il y a une boulimie, c'est vrai. C'est certainement même un peu maladif de ma part de vouloir faire des tas de choses. Mais ça vient d'une espèce d'énergie vitale, de créativité. C'est-à-dire, j'ai tout le temps envie de créer. Enfin, c'est peut-être un grand mot, créer, d'inventer. Je suis tout le temps en train de me demander, tiens, qu'est-ce qui serait bien? Tiens, qu'est-ce qui correspondrait mieux à mon idéal? J'ai créé beaucoup de choses. Le festival Les Vacances de Monsieur Haydn, par exemple. Bon, je me suis dit, tiens, quelle serait pour moi la manière idéale de partager la musique pendant un week-end? Faut qu'il y ait ci, faut qu'il y ait ça, faut qu'il y ait des jeunes, faut qu'il y ait des concerts partout, faut que ce soit simple, faut que ce soit marrant, faut que ce soit léger, en même temps profond, Voilà, puis à partir de ce moment-là, il y a toutes les idées qui viennent, et puis on devrait faire ci, on devrait faire ça. Puis le pire, c'est qu'on le fait. Et donc, c'est comme ça que naît pour moi un projet. C'était la même chose avec le Centre de musique de chambre, où je me suis demandé, en fait, la question fondamentale pour moi de la création de ce centre, c'est quel est mon rôle dans la société? Qu'est-ce que le musicien peut apporter à la cité? Et quel est mon rôle là-dedans? Alors, j'en suis venu à inventer une autre manière ou ma manière de transmettre les œuvres et donc mettre les œuvres de musique de chambre dans le contexte d'un spectacle avec de la lumière et qui peut faire rentrer le public dans l'œuvre sans qu'il y ait besoin de faire de pédagogisme entre guillemets mais simplement glisser comme ça. Là aussi on retrouve la notion de vulgarisation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effort à faire et qu'on comprenne des choses qui nous dépasse un peu, mais c'est pas grave. Et ensuite, plus si affinité, c'est-à-dire qu'après, on peut approfondir, on peut aller plus loin. On a des outils pour ça aussi au Centre de musique de chant qu'on a développé, comme des expositions virtuelles sur Internet, etc. Donc, c'est comment transmettre la musique. Alors, sous forme de spectacle, sous forme de... Les singles, vous savez, on fait deux concerts par soir, et le premier concert, c'est une œuvre toute seule, parce que, tout d'un coup, en fait, la forme du concert, c'est la forme de l'œuvre. C'était ça mon idée. On peut aller dans un musée pour voir un tableau, alors ça prend une force extraordinaire. Là, on va au concert pour écouter une œuvre. Et c'est une grande puissance pour développer l'écoute. C'est que là, pour le coup, on arrive au concert, le concert va durer peut-être 20 minutes, une demi-heure, peu importe. C'est le temps que le compositeur a décidé. C'est pas le programmateur qui a décidé, c'est le compositeur. Et donc, ça correspond à son œuvre. Et donc, il y a une réalité de concentration, de compréhension de l'œuvre qui...
Et une écoute certainement différente.
Très, très différente.
Qu'est-il de se passer si vous ne faites rien?
Le problème, c'est qu'il risque de se passer la même chose, c'est-à-dire que je vais inventer encore quelque chose à faire. C'est ce qui s'est passé pendant le confinement. Au mois de mars, tout d'un coup, dernier, il se passe rien. Tout est annulé.
C'était dur?
Au début, on a inventé, et c'était marrant. On a inventé des tas de trucs, faire des auditions sur des groupes Facebook, faire des challenges... pour se filmer dans telle et telle œuvre, faire les cours sur Zoom, ça m'a apporté aussi d'autres choses. Bon, évidemment que ça ne remplace pas, parce que tout simplement, un écran fera toujours écran. Et notre métier, c'est la communication des âmes, comme dit Proust. Voilà, c'est pour ça, il faut être là, il faut être ensemble, il faut partager en vrai. Mais peut-être que justement cette frustration liée au confinement, au fait qu'il n'y ait plus de concerts, etc., elle va être très bénéfique parce que elle va susciter plus d'envie encore d'aller au concert, on l'espère.
Mais pour vous.
Mais pour moi. Alors justement, c'est cette année, je la vois comme une année de jachère. Alors, mais vous voyez, c'est-à-dire qu'encore une fois, c'est quoi l'année de jachère? C'est l'année où la terre se repose, mais pour mieux que ça repousse mieux après.
Transformer la contrainte en opportunité.
Oui. Alors, ça se fait naturellement. Je le fais pas exprès. Je vous jure, je fais pas exprès. Mais je me suis encore foutu des trucs sur le dos, beaucoup. C'est-à-dire que j'ai pendant ce moment de confinement, en fait, j'ai inventé un studio sur Internet. ça s'appelle le E-Studio. Et c'est un lieu où des musiciens s'inscrivent de partout dans le monde et je les fais travailler, je fais des masterclass, je fais des cours sur les œuvres pour les violoncellistes, mais aussi pour tous les musiciens. Alors c'est marrant parce que je fais des masterclass donc avec tout ce petit monde-là en même temps sur Zoom. Alors il y a celui qui est en pyjama parce qu'il vient de se lever, il est à Los Angeles, et puis celle qui me dit à Saint-Pétersbourg, je peux jouer maintenant parce que là mes voisins ils vont craquer, il est trop tard ce soir. Bon, voilà, est-ce que t'es marrant, quand même, de se retrouver tous ensemble? Ça fait des personnalités que je rencontre, que je connaissais absolument pas. Et c'est une belle aventure. Mais alors, bon, bah, voilà que ça rajoute encore un projet dans ma besace. Mais après tout, ça a l'air d'être dans ma nature. J'ai décidé de pas trop me contraindre avec ça. Voilà, quand les choses peuvent se faire, bah, elles se font.
Parler un petit peu plus tôt dans ces grands entretiens, ce rôle du père et du professeur qui parfois, dans vos explications, et c'est amusant, se mélange en quelque sorte. Mmh. Mais où commence le jardin secret de Jérôme Pernaut ?
Le jardin secret, il est énorme. Il est dans tout ce que je vous ai pas dit pendant ces entretiens. Et pourtant, j'ai l'impression d'avoir parlé beaucoup. Et en fait, il est énorme parce que c'est ce jardin secret qui permet cette liberté intérieure dont je parle. C'est-à-dire, faut arriver à ce que le jardin secret soit très fertile.
Et pour ça, il a besoin d'être protégé ?
Ah oui, oui, oui. Il est extrêmement protégé. C'est une porte blindée, oui, oui, bien sûr. En fait, c'est très curieux parce que je ne partage pas l'intimité de ma vie avec mes élèves ou avec les gens que je côtoie. On peut avoir des relations extrêmement fortes, extrêmement amicales, etc., mais sans pour autant laisser une porte grande ouverte à l'intime, au privé, qui est hors de la scène. C'est d'ailleurs l'étymologie du mot obscène. Ce qui n'est pas sur scène est obscène. Et je n'ai pas envie de partager l'obscène avec mes relations, que ce soit amicales ou avec des élèves ou avec du public.
Et ce qui est même étonnant, tout au long de ces grands entretiens avec vous, Jérôme Pernaut, c'est que, en quelque sorte, à chaque fois que je pose une question pour connaître le Jérôme Pernaut, vous parlez des autres.
Oui, mais parce que aussi, je ne sais pas qui est Jérôme Pernaut. J'ai sûrement une vague idée, mais... Et puis surtout, j'ai pas envie qu'il y ait une définition de ce qu'est Jérôme Pernaut. Parce que Jérôme Pernaut n'est que l'étiquette qui contient ce que j'ai vécu, peut-être aussi ce que j'aimerais vivre, ce que je désire, ce que j'aime pas, bon, etc. Mais c'est très peu de choses par rapport à ce que est l'être qui est en chacun de nous. Donc, ce Jérôme Pernaut est un contenant, mais qui n'est pas fini. Donc, je ne peux pas le définir, puisqu'il n'est pas fini.
France Musique, les grands entretiens de Jérôme Pernaud.
Vous parliez, vous évoquiez cette voix humaine, évidemment, cette voix de baryton si chaude, si pleine. Quel serait peut-être le terme qui vous viendrait à l'esprit quand vous pensez à votre son, à vous ?
Eh bien, c'est exactement comme Jérôme Pernaud, c'est-à-dire que je ne sais pas quel est mon son. Et mon son, il va correspondre à ce que je suis en train de jouer. Enfin, en tout cas, je l'espère, je vais tout faire pour d'avoir un son juste, une expression juste par rapport à l'œuvre que je suis en train de servir. C'est encore pas moi. Et je pense que si j'ai mon son, eh bien, je ne le fais pas exprès. Et je pense que ça ne doit pas être une volonté. En tout cas, ça ne doit pas naître d'une volonté d'avoir son son. Parce que je pense que là, c'est vraiment une déviance dans l'interprétation. C'est l'œuvre qui va donner le sens qui va donner le son. Exactement comme un comédien va avoir tel type de voix pour exprimer telle chose. Ce serait prendre les choses à l'envers que de commencer par savoir quelle voix on a pour exprimer les choses.
Cela dit, y a-t-il eu un concert au cours de votre carrière où, à un moment donné, vous vous êtes dit « Eh bien, c'est ça ».
Le concert, pour moi, est sacré. Et il faut qu'il reste sacré. Et en fait, c'est marrant parce qu'en fait, je suis toujours content. Après un concert, je suis toujours content parce qu'on a vécu un moment. Après, on repense à ce qu'on a fait, je suis pas content parce que là j'ai fait une fausse note, parce que là je me suis planté, parce que là c'était pas tout à fait comme je voulais, parce que là je sais pas quoi, bon. Et puis on travaille, et puis le lendemain, voilà, on retravaille, et puis Richter, lui, il travaillait même le soir après le concert. Alors, moi j'ai pas le courage, hein, mais après, sur scène, c'est de la performance. On ne présente pas un produit fini quand on est sur scène. Il faut bien se rendre compte de ça. On est un peu spolié par les enregistrements, les vidéos, tout ça.
Qui sont retravaillés.
Tout ça est toujours retravaillé. Puis c'est très bien comme ça, parce que comme c'est enregistré, on pourrait pas supporter de laisser des trucs qui vont pas. Mais du coup, on a tendance à oublier que le moment du concert, le moment de la performance, ce n'est pas fini, ce n'est pas un objet fini. J'aime bien l'enregistrement. Donc enregistrer, refaire des prises jusqu'à ce que ce soit exactement ce qu'on veut, refaire la phrase encore et encore, trouver le bon équilibre, ça c'est génial. Le travail de mixage est génial, un peu plus de ci, un peu plus de ça. Là, c'est comme si on faisait un film. Je me souviens l'enregistrement du concerto de Connaisson. C'était fabuleux, le moment du mixage. Tiens, là, un peu plus de timbal. Puis on était avec Connaisson, on était avec l'ingé son qui était à fond. On était avec Espine aussi, qui était à fond là-dedans aussi, sur créer une image sonore. Alors là, on est dans la création. Voilà, ça, c'est un enregistrement. Et donc, c'est fait pour être un enregistrement. Et donc, c'est conçu comme ça. Et donc, c'est formidable comme ça. C'est un grand plaisir.
Ce concerto pour violoncelle de Guillaume Connaisson, donc il l'a écrit pour vous, vous en êtes le dédicataire. D'où vient, parce que ce n'est pas la seule œuvre que vous avez jouée de musique d'aujourd'hui, d'où vient cet engagement vers la création contemporaine ?
J'ai eu une révélation le jour où j'ai compris qu'il y a des œuvres d'aujourd'hui qui peuvent être très belles, qui peuvent nous séduire, qui peuvent séduire le public. C'est quand même un tournant dans l'histoire de la musique, puisque ça n'a pas été la préoccupation des compositeurs du XXe siècle, le fait que ce soit beau. Moi, je me souviens avoir dit Oh, je vais attirer les foudres hein, là, de beaucoup de monde, mais enfin, peu importe. Mais je m'en souviens très bien que Philippe Muller, qui était donc mon professeur au conservatoire, et qui a fait partie de l'ensemble intercontemporain, c'est-à-dire qui a fait beaucoup de créations contemporaines et tout ça, m'avait dit « Mais le but, c'est pas d'être beau. » Alors j'ai compris ce que ça voulait dire. On était dans le conceptuel. Et quelques années plus tard, plutôt dans les années 2000, j'ai découvert que des jeunes compositeurs avaient une autre manière de voir les choses et voulaient faire des œuvres qui puissent à la fois être très intelligentes, c'est de la musique savante, c'est très bien conçu, très bien écrit, mais en même temps pouvoir séduire un public comme ça, spontanément. Ben, comme Connaissons, par exemple. Il y a quand même un moment dans l'histoire de la musique où les choses se séparent entre le public, les interprètes et les compositeurs, et ça crée un petit problème dans la création musicale, parce que donc comme les œuvres ne plaisent plus spontanément au public, et que les interprètes, eux, sont en contact avec le public, ben, c'est là qu'ils se mettent à jouer de la musique ancienne tout le temps. Et puis finalement, ils jouent donc tout le temps la même musique, puisque c'est de la musique qui a déjà été écrite. Et du coup, qu'est-ce qui devient plus important ? C'est les interprètes. Et c'est comme ça qu'on arrive dans une espèce de star system, où l'interprète est plus important que l'œuvre elle-même. Et bon, moi je trouve qu'au XXe siècle, on arrive à un point de rupture avec cette question-là, et on voit du coup quelque chose de nouveau arriver, dans la création, dans la relation des compositeurs avec leur public, et notamment avec des interprètes qui écrivent eux-mêmes leur musique, ce qui a été le cas pendant toute l'histoire de la musique jusqu'au XXe siècle, et ce qui a l'air d'être à nouveau quelque chose qui va fleurir, comme par exemple Lucas de Bargue, immense pianiste, qui compose et qui compose de plus en plus, et qui a composé un trio, qui nous a composé aussi une sonate pour violoncelle et piano pour Jérôme Ducrot et moi. Et le fait que les interprètes reprennent d'une certaine manière le flambeau de la création, je trouve que c'est très vivifiant, c'est très vigoureux et c'est plein d'avenir.
C'est avec Disco Toccata pour clarinette et violoncelle de Guillaume Connaisson que nous refermons ce portrait, les grands entretiens de Jérôme Pernaud. Réalisation Christine Amado, prise de son Sébastien Royer, mixage Claude Nior, attaché de production Flora Sternadel. Et cette série de grands entretiens est disponible en podcast sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.